Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Au commencement était le verbe. Le verbe, la parole, le langage, la langue. Quand la langue, quand les langues sont-elles devenues sacrées ? Et la langue sacrée est-elle la langue divine? Les langues sacrées, le sanskrit, l'hébreu, l'arabe, le grec, le latin. Langage, invocation, prière. L'hébreu qui a ressuscité, mais devenu une langue d'État, l'hébreu est-il resté une langue sacrée? Comment et quand le grec et le latin se sont sacralisés par l'usage? Comment est-on passé du grec au latin? Entendre la langue sacrée, les langues sacrées, c'était dans la matinée des autres, le 21 juillet 1992.
Vous avez la transcendance, c'est quand la langue fait référence au verbe sacré, au verbe de Dieu. Et la transcendance, c'est le renvoi à la source du sacré. Et en ce sens, la langue, bien sûr, est sacrée. C'est parce qu'il y a toujours en fond, en toile de fond, la référence à Dieu.
La matinée des autres. Langue sacrée. Parole de l'indicible. Dany Toubiana. La parole de Dieu est semblable au marteau qui fracasse le roc. Jérémie 24-29.
La création des univers, le dialogue entre l'homme et Dieu se veulent dynamique infinie, sortant ainsi l'homme de sa pensée rationnelle et limitée du monde. Révélation divine, extase mystique, par-delà les rituels, les dogmes et les religions, l'homme continue ce dialogue ininterrompu avec Dieu dans des langues qu'il appelle sacrées.
René Samuel Sirat.
Dans le texte biblique, dans la Genèse, il est dit que Dieu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et les rabbins insistent sur le fait que le monde a été créé par 10 paroles. C'est-à-dire que la parole de Dieu est l'acte par excellence. Il a suffi à Dieu de dire que la lumière soit, et par conséquent, la lumière a été appelée à l'existence. Puis ensuite, Dieu a ordonné la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, et puis la création des grands luminaires, et puis la végétation et les animaux et l'homme. Bon. La parole de Dieu, elle est véritablement l'acte créateur par excellence. Et à cette parole de Dieu, il fallait qu'il y ait une réponse. Tant que l'homme n'était pas créé, il n'y avait aucune réponse possible à la parole de Dieu. La parole de Dieu, par conséquent, n'avait pas d'écho puisque l'homme n'existait pas et ne pouvait pas répondre. C'est à partir d'Adam qu'il y a dialogue. Il y a donc, et c'est toute la notion du dialogue qui est magnifiée par la tradition juive. Ce qui est important dans la relation de l'homme avec Dieu, c'est justement cette possibilité qu'il a de dialoguer. Et ce dialogue n'est jamais interrompu, fût-ce par la faute. Lorsque l'homme est pécheur, lorsque l'homme a commis une faute, il a toujours la possibilité de se repentir. Et le repentir juif a cette particularité, c'est qu'il permet d'agir sur le passé. En d'autres termes, le temps est réversible. Alors, je pense que la notion de sacré vient justement de là. C'est-à-dire que personne n'est jamais définitivement exclu du sacré. Le sacré, c'est quelque chose qui est donné à l'homme. Il y a une terre qui est sacrée, il y a des valeurs qui sont sacrées, il y a un temps qui est sacré. Ce qui est important, c'est de savoir que la vie que Dieu a donnée à l'homme est la valeur fondamentale. C'est cette vie qui doit être préservée absolument. Et c'est là ce qui caractérise la notion juive du sacré. C'est cela, c'est que finalement, c'est la sanctification de la vie.
Texte de Judas Lévy, théologien de l'âge d'or espagnol. Quant aux langues et au système d'écriture, les uns possèdent un avantage sur les autres, en ce que leurs noms ont une grande adéquation aux choses désignées, tandis que d'autres s'écartent de ce qui leur est adéquat. Or, la langue créée de façon divine, que Dieu a apprise à Adam, qu'il a placée dans sa bouche et en son âme, est sans doute possible, la langue parfaite entre toutes les langues, la plus adéquate aux choses désignées.
Ce qui est important, c'est depuis des millénaires, l'importance accordée par les docteurs de la loi, par les rabbins, aux lettres de l'alphabet. Ce ne sont pas simplement des codes, ce ne sont pas simplement des signes. Ils sont pleins de significations. D'abord, vous savez que dans la conception juive, les lettres servent également de chiffres. Et que par conséquent, il y a toute une habitude qui est prise de faire le décompte de chaque mot, puisque le mot est composé de lettres. Chaque lettre a une valeur numérique et par conséquent, chaque mot a une somme. Et cela permet donc de donner un sens supplémentaire au mot en question. Donc, cette manière de procéder s'appelle la gamatria, qui est donc un mot d'origine grecque, mais qui permet par conséquent d'utiliser la double valeur du mot dans son sens habituel, dans son sens originel, et aussi dans sa valeur symbolique, dans sa valeur numérique, et par conséquent d'établir des équivalences. Alors, dans toute la tradition juive, on utilise cette notion de gamatria. Ainsi, par exemple, le nom de Dieu, le tétragramme, que l'on ne sait pas prononcer, qu'on n'a pas le droit de prononcer, seul le grand prêtre dans le temple, le jour de Kippour, une fois par an, avait le droit de le prononcer, eh bien le tétragramme a pour valeur numérique 26, puisqu'il est composé de 4 lettres, Yod qui a pour valeur 10, He qui a pour valeur 5, Vav 6 et He 5, au total 26. Et 26, donc, c'est la plénitude de sens du nom de Dieu. Et alors, les rabbins font remarquer que le mot Ahava, qui signifie l'amour, est composé, encore une fois, de 4 lettres, Aleph 1, He 5, Bet 2 et He 5, c'est-à-dire 13. Lorsqu'il y a un amour partagé, lorsqu'il y a amour conjugal entre l'homme et la femme, alors on atteint la plénitude et c'est la bénédiction de Dieu et, pour employer le langage des rabbins, la Shekhina, la présence divine, réside entre l'homme et la femme et par conséquent l'amour partagé, l'amour de part et d'autre est quelque chose de tout à fait fondamental. Et encore une fois, les rabbins font remarquer que contrairement au bien matériel qui, lorsqu'on le partage avec son frère, il n'en reste pas moins que la part qui reste et est réduite de moitié, l'amour, plus il est partagé et plus il est grand.
Wir leben in Ordnung.
L'hébreu, tel que le désigne la Bible, n'est jamais désigné par ivrite, mais c'est toujours soit la langue de Canaan, soit dans la tradition rabbinique, on dit Lashon HaKodesh, la langue du saint. C'est la langue que Dieu a utilisée au moment de la révélation. Donc Kodesh a cette signification, Kodesh c'est ce qui est saint par excellence, c'est-à-dire Dieu, c'est la langue que Dieu a choisie pour se révéler aux hommes. Et cet argument est un argument extrêmement fort, d'ailleurs il est repris dans d'autres traditions, je pense à la tradition musulmane, où l'une des preuves de la véracité du Coran est très précisément la valeur de la langue arabe, la beauté de la langue arabe, son caractère incomparable, et c'est l'une des notions que les théologiens musulmans donnent justement pour prouver la véracité du Coran. Mais je referme la parenthèse, je reviens à l'hébreu. L'autre valeur du mot Lashon HaKodesh, la langue sacrée, la langue du saint, c'est finalement sacré dans la tradition juive, c'est ce qui est séparé, c'est ce qui est en dehors du commun. Et ce caractère sacré est donné très précisément par Dieu, puisque Dieu a choisi de s'exprimer avec sa créature au mont Sinaï et auparavant depuis Adam et à Abraham dans cette langue, en hébreu. Et c'est ce qui, dans la tradition juive, qui donne une particulière importance à l'ensemble des langues de l'humanité. Mais tout de même, l'hébreu a un caractère tout à fait particulier parce qu'il a un caractère sacré. Alors, je voudrais juste également préciser ce qui est fondamental, c'est que le peuple hébreu se considère comme étant le peuple prêtre de l'humanité. Pour revenir à la notion de sacré, la notion de sainteté, il y a différentes interprétations traditionnel du texte hébraïque, du texte de la Bible, plus précisément encore du texte du Pentateuque, les cinq livres de Moïse. Il y a quatre niveaux, pour schématiser, quatre niveaux d'interprétation. Il y a d'abord le sens obvi, le sens littéral du texte. Puis vient l'explication allégorique, le drash, l'explication qui permet d'actualiser le sens, qu'est-ce que le texte biblique et la parole du Dieu vivant me dit à moi, aujourd'hui, ici et maintenant. Donc là, c'est, si vous voulez, cette actualisation, ce sens, et c'est ce que les rabbins font depuis des siècles et des millénaires, c'est d'actualiser la parole, c'est la parole du Dieu vivant, et selon la très belle image du prophète, de la même façon que lorsque le marteau frappe le roc, il y a des éclats qui volent dans tous les sens, eh bien la parole de Dieu est infinie et par conséquent peut s'exprimer dans les 70 langues et dans toutes les situations depuis les origines et jusqu'à la venue du Messie. Deuxième niveau d'interprétation, donc le drash, l'explication allégorique. Et puis ensuite, il y a l'explication allusive, le remez, qui par conséquent nous permet justement de retrouver comme une sorte d'écho infini, comme une sorte de jeu de miroir où chaque image renvoie à une autre image et qui se réfère à l'image première, mais qui est tout de même une autre façon pour que moi, subjectivement, je puisse comprendre la parole de Dieu et ce qu'elle a à me dire à moi. Alors donc ça, si vous laissez le remez. Et ensuite, il y a le sens du son, c'est-à-dire le sens ésotérique, celui que la Kabbale a formulé et celui que les rabbins étudient dans le secret de leur cabinet. Et là, c'est donc, si vous voulez, le quatrième niveau d'interprétation. L'ensemble de ces sens qui doit constituer un tout cohérent, parce qu'il s'agit de la parole de Dieu, permet justement de réinterpréter à chaque génération, à chaque moment de la vie, l'ensemble des textes bibliques et de les authentifier.
Donc c'est cette étude permanente des textes anciens et cette réactualisation qui donne une idée de sacré dans la vie, dans la vie quotidienne, en quelque sorte.
Mais le rôle du juif, c'est d'introduire la notion du sacré dans ce qui est profane. Il n'y a pas de division stricte entre ce qui est profane et ce qui est sacré. Ce qui me paraît fondamental, c'est très précisément qu'il n'y a rien qui soit neutre sur le plan moral. Il n'y a rien qui soit finalement dépourvu de sens. Il faut par conséquent donner ce sens du Kodesh, ce sens de la sainteté à chaque élément, même les que l'on pourrait considérer comme les plus triviaux de la vie. Lorsque j'ai faim, je vais me mettre à table. Mais avant de me mettre à table, je dois d'abord me laver les mains et réciter une bénédiction, donc au moment de la purification. Puis ensuite, je dois remercier Dieu qui a fait sortir le pain de la terre, pour reprendre l'expression du magnifique psaume 104. Et puis lorsque j'aurai fini de manger et de boire, je réciterai les bénédictions et je commencerai par rendre grâce à Dieu qui nourrit toutes les créatures. C'est pas seulement moi, ma famille, mon peuple, ma communauté, mais c'est l'ensemble des hommes, mais l'ensemble aussi des animaux, des êtres vivants, des végétaux. C'est Dieu qui nourrit l'ensemble de la création, et c'est pourquoi je dois lui rendre grâce, puisque tout lui appartient. Donc lorsque je m'approprie quelque chose, il faut d'abord que j'en rende grâce à celui qui me l'a donné. Donc là, c'est la notion de la beracha, et je pense que cette bénédiction est un privilège absolument magnifique dont disposent les hommes, puisqu'ils dialoguent avec Dieu. Ils disent « Loué sois-tu, éternel, notre Dieu, roi de l'univers ». C'est le début de chaque élogie, de chaque bénédiction. Or, on ne se rend pas toujours compte du privilège inouï qui est donné à une créature de chair et de sang, qui est tout à fait éphémère, de dialoguer face à face avec Dieu. Et je voudrais peut-être, pour conclure, insister sur l'idée qui est donnée par les rabbins, et peut-être contrairement à ce que Pascal a enseigné à des générations d'étudiants, et d'abord de lycéens, puis ensuite d'étudiants et de philosophes. Pascal disait « L'homme n'est ni ange ni bête ». Mais pour les rabbins, l'homme est supérieur à l'ange, car l'ange n'a aucun mérite d'accomplir la parole de Dieu, puisqu'il a été créé pour cela. Il n'est pas doué de liberté. L'homme, en ce sens qu'il est doué de liberté, lorsqu'il choisit de servir Dieu, lorsqu'il choisit de se rapprocher de la sainteté, dans ce rapprochement, dans cette volonté libre de servir Dieu, il est supérieur à l'ange, puisque lui, il en a le mérite. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. Baged min bara adonai yod shamayim ve'yod ha'aretz.
Mireille Hadas-Lebel, on a assisté depuis le siècle dernier à une renaissance de l'hébreu, et aujourd'hui la langue que l'on parle en Israël est différente de l'hébreu biblique. Pourriez-vous nous rappeler cette histoire ?
Oui, donc il faut que je vous raconte 3000 ans d'histoire, en fait, avant d'en arriver à notre époque. En fait, on ne sait pas grand-chose des origines de l'hébreu. On voit la langue déjà achevée dans un livre, sans qu'on puisse avoir de traces antérieures véritablement. Et lorsqu'on trouve des inscriptions, elles sont généralement contemporaines des livres bibliques, c'est-à-dire qu'elles remontent à un petit peu moins que l'an 1000 avant l'ère chrétienne. Donc on n'arrive pas à remonter très haut sur la base de documents. Et cette langue elle-même a subi une évolution interne très profonde et qui est très liée à toute l'aventure du peuple juif à travers les âges. Faire l'histoire de la langue hébraïque, c'est en même temps raconter l'histoire d'un peuple avec cette particularité tout à fait étonnante, c'est que voilà un peuple qui a été exilé une première fois et qui est retourné. Donc, il ne croit plus qu'un exil soit définitif et irrémédiable. Lorsqu'un nouvel exil se produit à l'époque romaine cette fois, il est encore certain du retour. Et c'est ça modèle profondément la mentalité hébraïque et juive, ce qui fait que cette chose extraordinaire à laquelle nous assistons de nos jours, qui est la renaissance d'une langue que tout le monde considérait comme une langue morte, a été rendue possible parce qu'on a cru aussi au retour sur la terre, et que terre et langue étaient quelque chose d'étroitement associé dans la mentalité des Juifs. Alors la langue sacrée, c'est la langue de la Bible. Néanmoins, il y a petit à petit un respect qui s'est établi autour de tout ce qui est hébreu et autour de tout ce qui est caractère hébraïque. Par exemple, les Juifs ont appris l'araméen dans leurs exils divers, et c'est dans cette langue qu'est rédigé l'essentiel du Talmud de Jérusalem et du Talmud de Babylone. Donc l'araméen est une sorte de deuxième langue sacrée pour l'hébreu. Mais il se trouve que les Juifs l'écrivent dans les mêmes caractères, qui entre parenthèses sont des caractères araméens. Mais ces caractères, ces lettres-là, ont été véritablement sacralisées. Ce qui fait qu'au cours des siècles, tout ce qui s'est écrit dans ces caractères a été vénéré. Il est évident que dans le temps, on écrivait des choses moins profanes que de nos jours. Mais regardez ce qui s'est passé, par exemple, pour les documents usagers, livres de prière, même contrats quelquefois, écrits dans ces lettres hébraïques. Du fait que c'était écrit dans ces caractères, ils étaient vénérés et on n'avait pas le droit de les jeter à la poubelle comme n'importe quoi dont on n'a plus l'usage. On devait faire de véritables funérailles à ces textes qui étaient rassemblés une fois par an et on les enterrait. Dans un cas miraculeux encore, il n'y a pas eu d'enterrement, mais on les a mis dans un grenier. C'est le cas de ce qu'on appelle la Geniza de la vieille synagogue Ibn Ezra au Caire. Et à la fin du siècle dernier, on a trouvé là des milliers de documents. Quand je dis des milliers, je veux parler de 250 000 documents, quelquefois ce sont des petits fragments, hein, qui datent pour les plus anciens de la fin du 9e siècle et pour les plus récents de 1887, vous voyez. Donc on a là, sur une période de plus de 10 siècles, des documents concernant la vie quotidienne des gens, des lettres, des contrats, quelquefois des fragments de textes sacrés aussi, mais qui n'étaient plus utilisables parce qu'ils avaient été abîmés. On a essayé de fixer la prononciation de la Bible en inventant un système de points voyelles qui se mettaient en dessous des lettres ou au-dessus des lettres pour ne pas toucher au corps du texte qui lui est sacré.
Mais Mireille Hadas-Lebel, comment est-ce qu'on a pu garder et conserver cette langue et son caractère sacré ?
C'est une langue qui a vraiment été profondément aimée et on pensait que c'était la parole de Dieu dans des périodes où l'esprit religieux était plus développé que de nos jours. Donc on l'a respectée, on l'a transmise d'une manière orale, beaucoup par l'enseignement, par la répétition, comme ça s'est toujours pratiqué en Orient. Hein. Pour préserver l'hébreu, il y a eu une convergence des religieux et des laïcs. Laïque, ça n'a pas existé avant le 19e siècle. Il y avait quelque chose un petit peu d'un esprit, d'une amorce, quelque chose de ce genre peut-être, dans l'Espagne dont je vous parlais. Et puis au 19e siècle, les deux se sont retrouvés. Et alors là, on a assisté à d'abord une renaissance littéraire qui a ensuite été suivie d'un retour à l'hébreu parlé, la chose invraisemblable, utopique s'il en est. Autrement, l'hébreu a toujours vécu, mais dans toutes les communautés de la diaspora, il a toujours été pratiqué parce que c'était la langue des lectures hebdomadaires de la Torah.
Mais qu'est-ce qui reste finalement de sacré dans l'hébreu d'aujourd'hui ?
Alors justement, à partir du moment où l'hébreu devient la langue d'un État, l'hébreu n'est plus une langue sacrée. C'est l'hébreu de la synagogue qui est la langue sacrée, mais l'hébreu que vous lisez dans les journaux, l'hébreu qui se laisse pénétrer d'influences étrangères, parce que nous avons maintenant une civilisation mondiale qui envahit tout, est-il une langue sacrée ? L'hébreu doit s'adapter à tous les besoins de la vie quotidienne. Alors certes, la base est largement biblique, indéniablement la base est biblique. Il est certain que quelqu'un qui est allé à l'école primaire en Israël de nos jours peut lire couramment la Bible. Alors, il faut bien s'expliquer, il y a des passages faciles qu'il comprendra, il y a quelques mots sur lesquels il fera des contresens, et puis il y a des passages difficiles, mais qui sont difficiles pour tout le monde, y compris pour les grands érudits, sur lesquels il se cassera le nez, ou il se donnera l'illusion de comprendre quelque chose. Mais il lira la Bible sans aucun problème, parce que le vocabulaire biblique fait partie du fond de la langue, parce que la grammaire biblique fait partie du fond de la langue. Et en fait, le fait même que l'hébreu n'ait pas été parlé pendant des siècles a permis de préserver ce fond mieux que si l'hébreu avait évolué pendant tout ce temps. L'hébreu a été préservé. Il y a deux couches, l'hébreu de la Bible, l'hébreu de la Mishnah, auxquelles s'ajoutent quelques petits compléments au Moyen-Âge, mais qui ont fait qu'il y a deux piliers qui sont là, qui ont été gelés en quelque sorte, en attendant d'être réveillés.
Oui, pour commencer, un Wazifa qui exprime bien la résonance du cœur. Et en contraste avec un Wazifa qui exprime l'énergie du Saint-Esprit, Ruh al-Qudus, le mot c'est Qudus, 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 Qudus. Vous voyez la vibration très différente. La vibration du chakra de la gorge. Et puis, la voix qui correspond à la, enfin, la, une connaissance, une sorte de connaissance, une sorte de perspicacité dans la connaissance. Il y a Alim, accent sur le I. Il y a Alim. Il y a Alim. Ya Alim, Ya Alim, Ya Alim. Vous voyez, chacun c'est différent, n'est-ce pas ?
Et ce sont des vibrations qui permettent d'entrer avec des chakras différents.
Oui, d'abord il y a un effet physiologique naturellement, mais ce qui est intéressant c'est la façon dont la pensée se manifeste dans les cellules même du corps, n'est-ce pas ? Et on est en train de bombarder les cellules, et on les transforme du fait de les frapper avec le son. N'est-ce pas ?
Et est-ce que toutes les langues sacrées traditionnelles ont cet effet-là ?
Oui, oui, certainement. Oui. Alors, un autre, c'est Haq, c'est le mot du derviche, la vérité. Alors, faites attention, c'est une très forte. Ya Haq, Ya Haq, Ya Haq, Ya Haq. Vous voyez, c'est le derviche qui... Alors, il ébranle tout, n'est-ce pas, par la force de la vérité. Je vous ai averti.
Non, non.
Et puis alors, Wazifa beaucoup plus harmonieux, où on est en train d'avancer, un peu comme un cours d'eau, n'est-ce pas. Ya mohabu 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 ya mohabu. Vous voyez, ça va, ça avance tout le temps.
Donc, c'est différent. Ce sont des mots que vous dites, ont les mêmes effets que les mantras utilisés dans la tradition sanskrite.
Je pense qu'il y a certainement une différence. C'est que peut-être la différence n'est pas aussi évidente qu'on pense généralement. Je peux tout simplement dire que dans le soufisme, on est en train d'invoquer, c'est-à-dire de mettre en vedette la qualité divine qui représente l'archétype dont on est l'exemplaire.
Pir Vilayat Inayat Khan. Gérard Troupeau.
Les sémitisants divisent les langues sémitiques en deux grands groupes. Le groupe oriental, qui est représenté par l'acadien et qui est aujourd'hui une langue morte. Le groupe occidental, qui se divise à son tour en deux familles, la famille septentrionale et la famille méridionale. À la famille septentrionale appartiennent le cananéen, l'hébreu, l'araméen, avec ses variantes, le syriaque, le palmyrénien et le nabaté. Au groupe méridional appartiennent l'arabe, le sud-arabique, et l'éthiopien. Le sud-arabique, ancien et moderne, à ne pas confondre avec l'arabe qui est en fait le nord-arabique. Et cet arabe occupe une position intermédiaire entre le groupe des langues sémitiques occidentales, intermédiaire entre les langues septentrionales et méridionales. L'arabe est une langue sacrée d'abord parce qu'elle a servi à noter la révélation que le prophète a reçue de Dieu. Cette révélation, qui s'est échelonnée de 612 à 632, a été consignée en arabe. Mais cette langue était déjà, antérieurement à l'islam, une langue que l'on peut considérer comme sacrée. C'était en effet la langue des devins, les kouhanes, c'est-à-dire les prêtres de la religion anté-islamique, pré-islamique. Cette religion que l'on a appelée plus tard celle de la jahiliya, c'est-à-dire de l'ignorance de la véritable religion, c'est-à-dire l'islam. Cette langue était également celle des poètes anté-islamiques et elle était largement comprise par toutes les tribus de l'Arabie. L'écriture arabe est la dernière née des écritures sémitiques. Elle est attestée par deux inscriptions, l'une de 512 et l'autre de 568, donc au VIe siècle. Et ce qui est très curieux, c'est de constater que ces deux inscriptions en caractères arabes sont des inscriptions chrétiennes et qui ont été trouvées en dehors de l'Arabie. L'une à côté d'Alep, à Zébed, et l'autre à côté de Harran, dans le sud de la Syrie. Et ce sont des dédicaces, l'une trilingue et l'autre bilingue, syriaque, grec et arabe. Les orientalistes ne sont pas d'accord sur l'origine de cette écriture. Certains pensent qu'elle dérive de l'ancienne écriture des Nabatéens, l'écriture du royaume de la Nabatène. D'autres pensent que l'écriture arabe dérive de l'écriture syriaque, qui était utilisée par les chrétiens d'un royaume arabe, le royaume d'Al-Hira, qui était une petite principauté sous domination des Sassanides, près de l'actuel Koufa. Et il est probable, et là nous avons la tradition musulmane qui le confirme, il est probable que l'écriture arabe aura été inventée par les chrétiens de Hira et transportée à peu près à l'époque du prophète Mohammed, transportée à la Mecque. Et c'est cette écriture qui a servi à noter le Coran. La première attestation de la langue arabe et de l'écriture arabe, en dehors des deux inscriptions dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le Coran. C'est le texte du Coran. Nous n'avons pas de manuscrits qui remontent au 1er siècle de l'islam, mais nous avons des manuscrits très anciens qui remontent au 2e siècle. Et comme toutes les écritures sémitiques, l'écriture arabe est défectueuse, c'est-à-dire qu'elle ne note que les consonnes, c'est-à-dire la carcasse du mot, et que les voyelles brèves, car les voyelles longues sont notées, mais les voyelles brèves ne sont pas notées. Et comme ce sont les voyelles brèves dans les langues sémitiques qui donnent la signification à la carcasse consonantique, il y a plusieurs façons de lire un même mot et de le comprendre. Et c'est pourquoi on a, chez les Arabes, comme chez les Syriaques et comme chez les Hébreux, on a été obligé d'inventer un système de points voyelles pour indiquer au lecteur quelles voyelles il fallait lire, prononcer et de quelle façon il fallait comprendre.
Alors, cette langue, c'est une langue essentiellement coranique, parce que la langue que l'on va parler, on le verra plus tard, n'a rien à voir avec cet arabe coranique. C'est une langue fixée une fois pour toutes, c'est une langue qui se présente comment?
Alors là, les avis divergent. Les savants musulmans pensent que le Coran a été révélé à Mahomet dans sa propre langue, qui est celle des Quraysh, puisque Mahomet appartenait à la tribu des Quraychites, et que cette langue de la Mecque représente l'arabe pur, l'arabe clair. L'expression revient souvent dans le Coran. Il est question de lisan arabi mubin, c'est-à-dire une langue arabe claire. Il est question d'un Coran arabi, d'un Coran arabe. L'une des principales caractéristiques donc de cette langue est la clarté et la pureté. Les dialectes, pour les savants musulmans, n'étant que des corruptions de cette langue pure, de cette langue sacrée. Ce n'est pas la parole de Mahomet, c'est la parole de Dieu. Donc on peut dire que c'est une langue qui non seulement est sacrée, mais qui est divine.
Mais est-ce que ce n'est pas la caractéristique d'une langue sacrée, c'est d'être divine, justement? C'est le cas pour l'hébreu, c'est le cas pour le grec, non?
Bien sûr, mais en arabe, cela est poussé d'une manière extrême. Le Coran représente véritablement l'incarnation de la parole, divine.
Et qu'est-ce qu'il atteste?
Alors ça, c'est la foi. Bien sûr, parce que l'opinion des orientalistes, des arabisants, des savants occidentaux, diffère de celle des savants musulmans. Pour les savants occidentaux, l'arabe du Coran est cette ancienne langue de la poésie anté-islamique qui servait donc aux poètes dans leurs joutes oratoires, et qui servait aux devins, aux kouhans, à exprimer leurs oracles. Et c'est cette langue-là qui était déjà une langue, comme nous l'avons dit en commençant, qui était déjà dans une certaine mesure sacrée. Cette langue était une langue artificielle qui n'était pas la langue naturelle, qui n'a jamais été parlée. Elle n'était pas la langue maternelle des arabophones. C'était une langue factice qui avait été créée probablement à partir du parler du Najd, c'est-à-dire de l'Arabie centrale. Voilà quelle est l'opinion des savants occidentaux. Et alors, c'est cette langue poétique, cette koiné, comme nous disons, cette koiné dialectos, comprise dans presque toute l'Arabie, c'est cette langue dont le prophète Mohammed s'est servi pour consigner la révélation.
Je vais vous répéter le zikr. Il y a beaucoup de manières de le dire, naturellement. La 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 la.
Donc une tradition qui implique à la fois la voix et le corps, mouvement
oui,
du corps.
Oui, le mouvement du corps, c'est un peu ce que j'avais dit du vortex, n'est-ce pas? Il y a une sorte d'expansion dans le cercle, n'est-ce pas? Et puis en même temps, alors si on circumambule un centre, on renforce sa concentration sur ce centre. Donc, il y a le « et ». Quand on dit « la », c'est le cercle, n'est-ce pas? Et « la ha », c'est le sommet du cercle. Et puis « il », alors on se concentre sur le plexus solaire. C'est, disons, le centre du vortex du champ magnétique. Et puis, on passe de ce transite de ce cercle à un cercle supérieur. Il y a une translatation de sa concentration sur le cœur plutôt que le plexus solaire. Alors, on dit là, n'est-ce pas? Alors, il y a le L dans le plexus solaire. C'est un trou noir, n'est-ce pas? On est le vacuum dans le centre. Et puis, le là, c'est un trou blanc, n'est-ce pas? Alors, on passe d'un état passif à un état actif, n'est-ce pas? Et puis, c'est couronné par le hu, que l'on place dans le cœur. Alors, on aurait pensé qu'on fait appel au Dieu, l'aspect transcendant du Dieu, n'est-ce pas? Parce que hu veut dire lui, n'est-ce pas? Le zikr, c'est rendre Dieu présent. Donc, on ne passe pas à Dieu là-haut, mais présent.
L'arabe coranique, l'arabe du Coran, est donc une langue, disons, conservée, qui est devenue sacrée à la fois par l'origine, selon les arabophones, et par l'utilisation. Alors, je pense qu'il faut quand même parler de la récitation du Coran, qui est quand même tout à fait particulière.
En effet, c'est quelque chose d'extrêmement important, car, comme nous l'avons dit, l'écriture arabe est défectueuse. Alors, on a inventé tout un système de points d'abord pour noter les trois voyelles brèves, puis de petits signes empruntés d'ailleurs aux signes qui notaient les voyelles en syriaque. À côté de ces points voyelles, nous trouvons dans le texte du Coran un certain nombre de signes qui indiquent au lecteur comment il doit prononcer, comment il doit réciter le Coran. C'est toute une science qui s'appelle le tajwid, c'est-à-dire le bien dire, le bien réciter. Il y a des signes qui indiquent au lecteur s'il doit élever la voix ou la baisser, s'il doit accélérer ou s'il doit au contraire ralentir, s'il doit faire des vocalises ou s'il doit faire la pause. Tout cet ensemble constitue une science, la science de la belle récitation, du bien récité. À côté de ce tajwid, nous trouvons alors une autre science de la récitation qui est celle des lectures, des qira'at. Il y a eu plusieurs manières de lire le Coran, c'est-à-dire de mettre ses voyelles brèves au milieu du mot ou à la fin. Et on a finalement retenu 7 lectures canoniques. Il y a un adage qui dit que le Coran a été révélé selon 7 façons, unzil al-Qur'an ala sab'ati ahrufin, c'est-à-dire 7 manières de prononcer, de lire le Coran. Et toutes ces lectures sont canoniques. Et suivant la nature de la voyelle, eh bien, on lira un verbe à l'actif ou au passif, ou bien, suivant la voyelle finale, le mot sera sujet ou sera complément. On ne parle pas cet arabe coranique, mais on parle conventionnellement l'arabe littéral. L'arabe littéral qui provient directement de cet arabe coranique.
Contrairement à l'hébreu et à l'arabe, qui sont des langues révélées, le grec et le latin ont été sacralisés par l'usage.
Alain Le Boulouec.
Dans l'Antiquité, le grec peut être considéré comme une langue sacrée par certains de ses usages. Prenons l'exemple de l'oracle d'Apollon à Delphes. Vous savez sans doute que il y avait la pitié qui, sous l'effet de certaines drogues, était mise en état second et se mettait à parler un langage étrange, énigmatique. Il y avait tout un collège de prêtres qui étaient chargés d'interpréter, de transcrire ces paroles sous forme de vers à peu près compréhensibles. Et qu'il fallait aussi commenter, interpréter, il y avait un travail d'exégèse.
C'était donc une langue dans laquelle les dieux s'adressaient aux hommes.
Oui, c'est ça, une langue dans laquelle les dieux s'adressaient aux hommes, mais pas seulement à Delphes, mais dans d'autres lieux oraculaires aussi, et parfois par l'intermédiaire de devins, de personnes qui étaient considérées comme douées de prophéties, en quelque sorte, inspirées par telle ou telle divinité. Donc c'était en effet cette langue, enfin, il y avait un certain usage de la langue grecque qui en faisait la médiation, le lieu de communication entre les dieux et les hommes. Les caractères qui font d'une langue une langue sacrée tiennent beaucoup à son étrangeté, voire son opacité, sa bizarrerie, ses formes énigmatiques qui la distinguent très nettement, immédiatement, de l'usage commun, courant. Ce n'est pas la langue de communication entre les hommes dans la vie quotidienne, c'est vraiment soudain un usage de la langue qui en fait quelque chose de tout autre, de tout différent, et qui semble par cela transmettre des messages venus d'un autre monde.
Comment est-on passé de l'hébreu qui était la langue sacrée, puisqu'on prétend que c'était la langue que Adam et Ève parlaient au paradis, au grec, parce qu'il y a eu une traduction de la Bible en grec, je crois.
Oui, et ça, alors là, il y a eu en effet une mutation très importante des usages sacrés de la langue grecque qui a coïncidé avec cette entreprise de traduction de la Bible, ou du moins de la Torah, enfin des 5 premiers livres de la Bible, au 3e siècle avant notre ère, à Alexandrie. Je parle de mutation parce que c'est une transformation très importante. C'est cette langue qui était jusque-là, qui dans ses usages sacrés était la langue du polythéisme, la langue des dieux nombreux, qui est soudainement, a été utilisé soudainement pour une religion monothéiste. Et il faudrait d'abord rappeler que cette entreprise de traduction de la Bible de l'hébreu en grec a eu pour origine une initiative profane, à la fois par intérêt culturel et aussi pour des raisons politiques, proprement parler. Cela dit, il faut bien se rappeler, d'autre part, que une bonne partie de la communauté juive d'Égypte, à cette époque-là, ne comprenait plus l'hébreu de la Bible et ne parlait même pas l'hébreu dans la vie quotidienne. La langue de communication pour cette communauté était devenue le grec. Et d'ailleurs, la situation même des juifs en Égypte à cette époque-là était tout à fait comparable juridiquement et politiquement à celle des Grecs venus d'autres pays, d'autres régions, d'autres cités de la Grèce ou des colonies grecques du bassin méditerranéen. Donc c'est le grec qui était leur langue de tous les jours. C'était aussi pour eux donc une langue profane, c'était une langue de l'usage courant. Néanmoins, une fois que cette Bible, cette Torah a été traduite de l'hébreu en grec, il est certain que cette traduction a pu être très utile aussi pour répondre à des besoins proprement religieux de la communauté juive, qui a pu ainsi avoir accès directement, sans passer par les interprétations de gens autorisés et capables de comprendre le texte hébreu. Ils ont pu avoir accès directement au message divin. Et c'est à partir de là que les communautés religieuses se sont lancées elles-mêmes, cette fois avec une intention de révérence à l'égard du patrimoine sacré, dans la traduction des autres livres de la Bible, à savoir les psaumes, livres de textes de prière, les prophètes et beaucoup d'autres, le Cantique des Cantiques et beaucoup d'autres livres.
Mais à quel moment est-ce que l'hébreu et le grec, en somme, se sont séparés? Est-ce que c'est à partir du christianisme ou est-ce que c'est antérieur?
Alors, le grec et l'hébreu se sont séparés. En effet, on peut dire les choses ainsi. Il y a eu, avant même l'ère chrétienne, des signes de réticence de certains milieux juifs à l'égard de cette traduction de l'hébreu en grec. Ils considéraient en effet que le grec étant la langue des mécréants, enfin des polythéistes, des païens, disons-le, ne pouvait pas être la langue sacrée, bien entendu. On a des traces à une époque, dès le deuxième siècle avant notre ère, on a des traces très nettes d'hésitation, voire de réticence, même d'hostilité. Et bien entendu, la rupture a été beaucoup plus nette, l'opposition définitive, à partir du moment où ce sont les chrétiens qui se sont appropriés au premier et deuxième siècle de notre ère, qui se sont appropriés cette traduction de la Bible en grec. À partir du moment donc où les chrétiens ont fait de cette Septante leurs livres sacrés, leurs écritures saintes, et que d'autre part les communautés juives, aussi bien en Égypte mais surtout en Palestine, ont subi les tragédies que l'on connaît, et que d'autre part le temple a été détruit, que le culte organisé autour du temple, du sanctuaire, a été condamné, a dû disparaître. Le judaïsme s'est reconstitué autour du livre sacré, autour du texte, et autour du texte hébreu cette fois.
Lorsque le latin apparaît, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu un schisme à ce moment-là, à la fois dans la langue utilisée par la liturgie et puis dans l'utilisation de la langue elle-même?
Oui, c'est-à-dire qu'il y a dans le bassin méditerranéen, à une époque ancienne, bien entendu, deux univers linguistiques. Il y a l'Occident où on parle plutôt, on parle latin en général, et puis l'Orient où l'on parle grec. Et dans un premier temps, dans la mesure où le christianisme s'est développé de l'Orient vers l'Occident, la langue qui a été utilisée pour la liturgie a d'abord été le grec. Et les premiers écrits des pères chrétiens en Occident ont été rédigés en grec, d'ailleurs. Ce n'est qu'avec Tertullien que le latin chrétien prend ses lettres de noblesse et que l'on se met à traduire aussi la Bible grecque en latin.
François Delbeau.
Alors, il faut bien voir que le latin est un tard venu parmi les langues sacrées et qu'à l'origine, c'est l'hébreu et le grec qui ont ce statut dans le monde chrétien. Le latin, aucun livre biblique n'avait été directement écrit en latin. Et donc, le latin comme langue biblique est une langue de traduction, un peu comme le français est maintenant une langue de traduction pour la Bible. Et dans la liturgie, l'apparition, l'émergence du latin doit se produire en Occident seulement au IIIe siècle. Dans les premiers siècles du christianisme, même à Rome, la langue liturgique est le grec. Et il semble, nous sommes mal informés sur le passage du grec au latin, mais il semble qu'il y a eu des problèmes de schisme à l'époque où l'on a décidé de modifier la langue liturgique et de tenir compte du fait que la plupart des chrétiens d'Occident étaient de langue latine.
Donc on peut dire que la langue latine est devenue sacralisée par l'usage beaucoup plus que par la révélation qu'elle peut impliquer au départ, non ?
Exactement. Du point de vue historique, c'est comme cela que ça s'est passé. C'est simplement le fait que les communautés chrétiennes en Occident, qui au départ étaient hellénophones, parce que les premiers évangélisateurs, les premiers chrétiens à venir en Occident étaient des marchands grecs ou des marchands syriens de langue grecque, la communauté hellénophone a été peu à peu mise en minorité par rapport aux communautés latinophones.
Alors, est-ce que l'apparition du latin dans la liturgie a changé quelque chose dans les rapports, dans le rapport au sacré ?
On a traduit parallèlement les textes bibliques du grec en latin, et de manière très littérale. Ce qui fait que pour un latin, le texte latin de la Bible gardait une apparence de sacré parce qu'il était très proche du grec. Et en conséquence, on faisait une distinction entre le latin que l'on parlait quotidiennement, la langue vulgaire, et cette langue où les traducteurs avaient cherché à conserver l'ordre des mots du grec, l'apparence même du grec. Et il était d'ailleurs passé dans la langue latine, chrétienne, un certain nombre de mots grecs qui y sont restés du reste.
Et dans la liturgie elle-même, est-ce qu'on retrouve des mots de grec ou d'hébreu même ?
Alors, dans la liturgie latine, on a conservé, jusqu'à Vatican II, un certain nombre de mots qui sont d'origine grecque, par exemple la prière Kyrie eleison, Christe eleison, et on a conservé aussi quelques mots hébreux comme Hosanna, Alléluia, Amen, qui manifestaient dans la liturgie occidentale de rite latin l'existence de ces trois langues sacrées du christianisme, l'hébreu, le grec et le latin.
Quelle est l'interprétation que l'on peut donner de l'arrivée du latin ? Pourquoi est-ce qu'on a décidé un beau jour d'utiliser le latin, en somme, dans la liturgie ?
Alors, il y a eu certainement à l'origine un aspect pratique, faire en sorte que les fidèles comprennent ce qui se déroulait dans le sacrifice de la messe. Évidemment, on a aussi justifié a posteriori cette innovation capitale du fait que l'on lisait désormais la Bible en latin ou du fait que l'on priait Dieu en latin au cours de la liturgie. Et cette interprétation, cette justification a posteriori, a été tirée du texte même des évangiles. Car il est question, une fois dans les évangiles, de la langue latine. Mais dans un moment capital, c'est dans l'évangile de Jean, il y a un passage parallèle dans l'évangile de Luc, lorsque l'évangéliste parle de l'inscription qui est fixée sur la croix de Jésus au moment de la Passion, il rappelle que l'on avait mentionné dans les trois langues l'hébreu, probablement l'araméen, le grec et le latin. On avait mentionné le « ceci est Jésus, le roi Jésus Nazaréen, qui est le roi des Juifs ». Alors les pères de l'Église latine ont largement exploité cette présence des trois langues parlées dans l'Empire romain au moment de la Passion du Christ pour justifier le caractère sacré et de l'hébreu, qui est la mère de toutes les langues selon Jérôme, puisque c'est la langue dans laquelle Adam a nommé les choses créées, et le grec, qui est la langue du Nouveau Testament, et le latin, qui était la langue impériale, qui était la langue de l'administration impériale. Alors, ce passage est capital pour les pères latins parce qu'il justifie l'emploi du latin dans la liturgie, même si aucun auteur inspiré n'a écrit directement en latin.
Pierre Filioza, vous êtes spécialiste de sanskrit. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la notion de langue sacrée dans la tradition sanskritiste, s'il vous plaît ?
Le sanskrit est bien connu comme étant la langue sacrée de l'Inde. Il est très utilisé dans toute la pratique de la religion en Inde, dans toutes les écoles. Il l'a été dans le passé, il l'est encore aujourd'hui. Le sanskrit est considéré comme sacré. Si on demande à un Indien, il répondra tout de suite, c'est parce que c'est une langue éternelle. Alors comment conçoit-on le sanskrit comme langue éternelle ? Et il y a plusieurs façons d'approcher cette idée. La plus simple, c'est peut-être de partir de l'idée de tradition et de transmission. Un disciple apprend le sanskrit auprès d'un maître et uniquement par voie orale. La première fonction du maître est d'enseigner un texte, le Véda généralement, mais ça peut être aussi d'autres textes. Le devoir du disciple est d'apprendre par cœur le texte. Le maître récite, le disciple répète après, on répète plusieurs fois le texte. Au bout de quelque temps, le disciple a mémorisé. Et ce procédé de transmission par voie orale à l'aide de la mémorisation fonctionne depuis plusieurs millénaires en Inde et il est encore utilisé aujourd'hui, même sans aide du livre, sans aide de l'imprimerie et sans aide de l'écriture. Alors si on demande à un des lettrés qui ont appris le Véda de cette façon, si on leur demande quel est l'auteur du texte, ils répondent « Eh bien, il n'y a pas d'auteur humain ». Le texte a toujours été transmis de cette façon. Mon maître l'a appris de son maître, qui l'a appris de son maître, et on peut remonter de cette façon dans la nuit des temps. À partir de cette idée de texte qui n'est que transmis, qui n'est que reçu par l'oreille, eh bien on passe à l'idée de texte qui n'a pas de commencement, qui est éternel.
Mais est-ce que ce texte a subi une évolution ? Est-ce que c'est toujours le même qui a été transmis de maître à disciple ou est-ce qu'il y a eu des modifications au cours des temps ?
Alors, dans le cas du Rig Veda, qui est le plus ancien des textes transmis de cette façon, il n'y a eu aucune altération. C'est un texte qui est pratiquement sans variante. Comment cette conservation exceptionnelle a-t-elle été réalisée uniquement par voie orale et uniquement par la mémoire humaine ? Eh bien, ceci dépend de précautions qu'ont pris les maîtres pour transmettre le texte dans toute son intégrité. Il y a 11 façons de réciter le même texte. On a un certain nombre de combinaisons qui donnent une forme particulière du texte différente à chaque fois. s'il y a un trou de mémoire, le trou de mémoire peut arriver dans une des récitations, mais pas forcément dans les autres. Donc en apprenant 11 récitations différentes, on peut identifier l'endroit où l'on a fait une erreur et la corriger.
Combien de vers comporte un Veda ?
Le Rig Veda comporte 1028 hymnes de longueur irrégulière, mais enfin ça fait quand même déjà deux gros volumes. C'est un exploit de l'apprendre dans une seule récitation, et je vous rappelle qu'on l'apprend 11 fois. Le fidèle à utiliser la parole, et c'est peut-être la parole qui est considérée comme le plus efficace dans son rite. Il adresse son culte à une divinité de son choix, et ce sont les textes qui font autorité, les textes éternels, des Védas, des Tantras principalement, qui lui fournissent les mots qui peuvent réaliser la présence de la divinité, celle à laquelle il adresse son culte. Et la divinité n'est pas considérée comme étant dans la pierre, dans la statue ou dans l'image. Elle est considérée comme une âme de caractère subtil, quelque chose d'abstrait qu'il doit imaginer dans son esprit. Alors quel est le support, quelle est l'aide qui lui permet d'arriver à cela ? Eh bien, c'est principalement la parole. Et il y a une parole qui a un pouvoir particulier d'assurer la présence de la divinité, de permettre la communication du fidèle avec Dieu. Cette parole, c'est ce qu'on appelle mantra dans la religion indienne. Les mantras appartiennent soit aux Védas, ou bien ils sont construits selon les règles édictées dans la littérature des tantras, ou bien alors il s'agit de prières et d'hymnes aux divinités qui sont tirées des Puranas. Dans la littérature tantrique, il y a une conception particulière du mantra qui rend compte de la puissance et de l'efficacité de cette formule. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de conceptions très diverses. Je peux en évoquer au moins une qui me paraît très représentative. C'est celle de Tantra Shivaïte, qui présente le mantra, la formule, comme étant beaucoup plus qu'une parole. Elle déclare que le mantra est une âme, et une âme particulièrement pure. On nous dit par exemple que Shiva choisit 70 millions d'âmes les plus pures dans toute l'infinité des âmes incarnées en ce monde. Il les choisit pour en faire ses serviteurs, ses agents, dans sa tâche de distribuer la grâce à toute l'humanité. Parmi ces âmes, il en prend la moitié, disons 35 millions, et il les charge d'aller porter sa grâce aux hommes et d'établir la communication entre eux et lui. Pour ceci, ces âmes ont besoin d'un support matériel. Elles prennent comme corps la parole. Donc le mantra, ce que l'on entend, ce que l'on prononce, c'est uniquement un corps pour une âme qui est en fait une sorte d'ange gardien, une âme pure qui est l'intercesseur entre le fidèle et Dieu.
André Padou, vous êtes spécialiste de sanskrit et vous avez écrit un livre sur la parole que l'on appelle Vach en sanskrit. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente la parole dans la tradition indienne ?
Bien, la parole dans la tradition indienne représente quelque chose de très important, car c'est peut-être la tradition où l'on a le plus insisté sur la parole depuis les débuts, on peut dire, jusqu'à nos jours. Dès le Veda, la parole est divine, elle joue un rôle essentiel, elle est créatrice du monde, elle est la première à avoir existé, et le Veda lui-même est considéré comme la parole première, une parole auto-révélée. Le Veda n'a pas été révélé par quelqu'un d'autre, il s'est révélé lui-même et il est fait de parole.
Thank you. Swami Durgananda est américaine. Elle a été journaliste durant de longues années avant de prononcer ses vœux de Swami, c'est-à-dire de moine. Elle enseigne le Siddha Yoga sous la direction de son maître, Gurumayi Chivlasananda.
Le Siddha Yoga est une tradition très ancienne qui est transmise de maître à disciple. Elle existe en fait depuis des milliers d'années. Et la base du Siddha Yoga est la transmission d'énergie par le maître qui éveille l'énergie spirituelle endormie, la kundalini du disciple. Ensuite, le processus du yoga, des pratiques spirituelles se produit. La pratique fondamentale du Siddha Yoga est la méditation. Et lorsque cette énergie a été éveillée par le maître, la méditation devient presque spontanée, c'est-à-dire que vous vous asseyez en silence, vous répétez un mantra et l'esprit s'intériorise. Et vous avez une expérience de la source de l'être, de la part la plus profonde de vous-même.
Les mantras, dont certains sont d'origine védique, sont surtout des formules relativement brèves, à usage rituel, sotériologique, magique, etc. C'est rattachable au Veda, ça remonte sans aucun doute au Veda, mais c'est déjà tout de même une tradition assez différente. Et d'ailleurs, à côté de la tradition d'ordre védique, qui est celle d'un certain hindouisme orthodoxe, il y a toute une tradition qu'on appelle quelquefois tantrique et qui fait usage de mantras relativement différents.
Mais alors, les mantras, on sait qu'il y a des livres qui consignent la plupart des mantras, mais si je prends par exemple un mantra dans un livre, est-ce qu'il va avoir une valeur magique, comme vous dites ?
Non, un mantra que l'on prend dans un livre n'a aucune valeur. La particularité d'un mantra, c'est que c'est une parole d'origine divine, c'est une parole révélée, et c'est une parole, c'est une forme de parole que l'on ne peut recevoir que de façon traditionnelle. Un mantra que l'on trouve dans un livre est, comme on le disent les textes eux-mêmes, il est lettre morte. Non seulement il est inefficace, mais il peut même être dangereux car il peut se retourner contre l'imprudent qui essaie de l'utiliser. Les mantras sont des formes de parole strictement codifiées, transmises par la tradition et qui ne peuvent être utilisées pour des fins d'ailleurs qui peuvent être très, très diverses, que conformément à des règles très précises. Comment dirais-je ? Il y a d'abord le fait que le mantra ne peut être reçu normalement que d'un maître initié qui transmet le mantra dans l'initiation. Alors à partir de ce moment-là, on a reçu un mantra et on peut s'en servir. Alors on peut s'en servir pour parvenir à la libération, si c'est ce que l'on recherche. On peut s'en servir aussi pour obtenir des satisfactions d'un autre ordre. La tradition indienne admet parfaitement qu'on utilise un mantra, non pas pour des fins proprement magiques, mais développer son intelligence, pour acquérir des puissances intellectuelles plus grandes, ou encore autre solution, sans rechercher la libération pour parvenir à un paradis. On peut s'unir à la divinité par l'intermédiaire d'un mantra. On peut également se servir d'un mantra pour faire apparaître une divinité pour qu'elle soit proche et qu'on puisse s'adresser à elle.
Le Siddha Yoga est donc fondé sur la transmission d'énergie par un maître vivant. Et à notre époque, il y a eu trois maîtres, trois très grands maîtres. Et le maître actuel de la lignée est Gurumayi Chidvilasananda. Elle est disciple de Swami Muktananda, qui a été la première personne à introduire l'enseignement et la tradition du Siddha Yoga en Occident. Il a commencé à voyager en Occident au début des années 70 et il a initié de nombreuses personnes à cette tradition.
Donc, votre tradition est basée sur les mantras. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un mantra ?
Le mantra est un mot d'un grand pouvoir essentiellement. Le mot mantra est composé de deux syllabes, man, qui signifie esprit, et tra, qui signifie instrument. Donc le mantra est un instrument pour l'esprit. Dans la tradition du yoga, c'est un instrument utilisé pour tourner l'esprit vers l'intérieur. Si vous avez interviewé des personnes sur les rituels de la tradition védique, vous savez que les mantras peuvent être utilisés à des fins très variées. Cependant, dans le yoga, ils sont utilisés pour la méditation. À mesure que vous répétez le mantra, il ramène votre attention vers les différents niveaux de conscience de votre esprit, vers la source de l'esprit, qui est un espace de silence. Un espace où nous sommes reliés à l'univers, reliés à l'unité. Les anciens sages ont médité très profondément et ils ont découvert par l'expérience la grande paix et la joie immense de cet état intérieur de silence, cet état intérieur au-delà des mots. Au cours de cette expérience, ils ont perçu une vibration, une pulsation. Et lorsqu'ils sont sortis de leur méditation, ils ont recréé cette pulsation sous une forme verbale.
Le mantra s'utilise très souvent en étant souvent répété, et c'est ce que l'on appelle en sanskrit japa. Le japa peut prendre des formes extrêmement diverses, en fait. Le japa, ça peut consister tout simplement à réciter un mantra un certain nombre de fois, une dizaine de fois, souvent 108 fois ou 1008 fois. Ça peut aussi consister à le répéter des milliers ou des dizaines de milliers ou des millions de fois. Ce qui est important dans le japa, c'est la dévotion, c'est l'amour de la divinité, c'est le sentiment et c'est l'immersion à la divinité avec laquelle on le pratique et vers laquelle on tend par l'intermédiaire du japa. Ce n'est pas du tout le rite, mais il y a tout de même un certain nombre de rites qui existent et qui peuvent être assez compliqués.
À quoi va donc servir un maître dans la transmission du mantra ?
Bien, le maître sert à ceci dans la transmission du mantra, que le mantra ne peut être transmis qu'à l'intérieur d'une tradition, que par quelqu'un qui en quelque sorte a reçu, on pourrait dire l'influx spirituel si l'on veut, et c'est le maître qui l'a reçu de son propre maître, qui lui-même l'a reçu par toute une tradition, qui en théorie au moins remonte jusqu'à la divinité. C'est donc le maître qui a le pouvoir de transmettre à son disciple le pouvoir qui se trouve, la force qui se trouve dans le mantra.
Une grande partie du pouvoir de ces mantras vient du fait qu'ils sont réellement des sons qui émanent de l'espace intérieur de la conscience. Cependant, un mantra est inefficace pour vous conduire vers l'intérieur s'il ne vous a pas été donné par un maître qu'il a investi du pouvoir de sa propre expérience intérieure. Car le réel pouvoir du mantra vient en fait de la source même de la conscience. Et tant qu'elle n'est pas insufflée dans les mantras ne sont que des mots. La tradition dit que les sons, les vibrations qui ont donné naissance à la matière sont absolument identiques aux sons de la langue sanskrite. Donc, le son de chacune des syllabes du sanskrit contient ce potentiel créatif. La tradition ancienne dit que si vous connaissez la façon correcte de prononcer ces sons, vous pouvez vraiment manifester des objets, des éléments du monde matériel. Un exemple très célèbre est la syllabe Ram, qui est un mantra semence, et qui, lorsqu'il est prononcé par quelqu'un qui a donné pouvoir au mantra, peut réellement produire du feu. Donc, lorsque vous répétez le mantra Om, vous découvrez qu'il vous conduit directement à la source de notre création, l'espace de la conscience. Et la plupart des grands mantras qui sont donnés pour la méditation comprennent le mot Om. Par exemple, le mantra du Siddha Yoga, Om Namah Shivaya, comprend cette syllabe Om. Le mantra Om Namah Shivaya signifie « J'honore mon soi intérieur ». Et il y a une bonne raison à cela. La raison est que les syllabes du sanskrit vibrent au niveau du corps subtil de l'être humain et qu'elles éveillent et purifient notre corps subtil. Et cela ne se produit pas avec les mêmes mots lorsqu'ils sont en anglais. Donc, chacune des syllabes sanskrites active un centre du corps humain. Et certains sons, certaines voyelles ont un effet très puissant et permettent à l'énergie de méditation d'agir et de purifier notre système. Et tous les mantras qui sont utilisés pour la méditation contiennent ces sons. Ces sons existent d'ailleurs dans les autres langues, comme l'hébreu, par exemple. Ils sont en arabe. La plupart des mantras hébreux que l'on répète contiennent ces sons. Ils ne sont pas réservés au sanskrit. À notre époque, les gens ne comprennent pas la nature véritable de la réalité et ils n'ont pas de respect pour les enseignements. Et c'est pourquoi le pouvoir du mantra a été dissimulé et il doit être révélé par un maître. En recevant un mantra d'un maître réalisé, et en le répétant, tout le monde peut faire cette expérience de l'éveil, car cette énergie réside en chacun. C'est une expérience que tout le monde peut faire. L'élément indispensable est la présence du maître, et votre intérêt et votre engagement personnel aident beaucoup.
Pir Vilayat Inayat Khan.
Le mystique remplace la conception de Dieu par l'expérience de Dieu.
Et de quelle façon la langue peut-elle donner cette expérience de Dieu ?
Les mots sont des jalons sur la route, ce sont des catalyseurs qui déclenchent. Déclenchent, c'est beaucoup dire, c'est comme, vous savez qu'il y a une parole de Kosipski qui a dit « La carte n'est pas le territoire ». Donc les mots sont des indications, des pancartes sur la route qui vous donnent une idée de la direction, mais c'est tout. Et d'ailleurs, il faut dépasser le mot, mais dans la tradition soufie, il y a une sorte de magie dans le mot. Et c'est peut-être parce que toutes les langues, les langues originelles, c'est-à-dire non pas conventionnelles, les langues originelles, les anciennes langues, représentent des caractéristiques qu'on ne trouve pas dans les langues conventionnelles, parce que les sons ont un effet psychologique. Au départ, ce que j'avais dit, c'est comme j'avais cité Morshid, qui est mon père, qui a dit au départ, il y a une conception de Dieu, mais on se rend compte à quel point, à certains moments, on se rend compte à quel point cette conception est limitée par sa ratio, son raisonnement, et alors on commence à être à la recherche de l'expérience.
Oh.
C'était La matinée des autres, langue sacrée, parole de l'indicible, de Dany Toubiana. Avec la participation de Teresa Battesti, iranologue, conservateur au Musée de l'Homme. René Samuel Sirat, grand rabbin et professeur d'hébreu à l'Institut des langues orientales. Mireille Hadas Lebel, docteur d'état d'histoire ancienne, professeur à l'Institut des langues orientales. Pir Vilayat Inayat Khan, enseignant de méditation de tradition soufie. Gérard Troupeau, directeur d'études en langue arabe à l'École pratique des hautes études. Alain Le Boulouec, directeur d'études en grec à l'École pratique des hautes études. François Dolbeau, directeur d'études en latin à l'École pratique des hautes études. Pierre Filioza, directeur d'études en sanskrit à l'École pratique des hautes études. Swami Durgananda, enseignante de Siddha Yoga. André Padou, directeur de recherche honoraire au CNRS. Générique, Serge Renko. Traduction, Marie-Hélène Bell. Mixage, Noélie Louis-Marie. Une réalisation de Jean Couturier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 juillet 1992. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Come away with me. Come away with me, and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us with their lies. And I wanna walk with you on a cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try to come? Come away with me and we'll kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you. Thank you.
while I'm safe there in your arms. So all I ask is for you to come away with me in the night. Come away.